Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. Direction aujourd'hui le hameau du Pi, sur la commune de Broquiès, pour y rencontrer Samuel, arboriculteur et pépiniériste bio d'arbres fruitiers. Bon alors Sam, bonjour, est-ce que tu peux te présenter vite fait ?
Oui, alors je m'appelle Samuel Souchet, je suis pépiniériste, je suis le gérant de la pépinière de l'Arpenteur qui est située sur la commune de Lestrade-et-Touels et je cultive des terres sur la commune de Lestrade-et-Touels principalement, mais aussi à Broquiès, au Pi et à Marabonne, ainsi qu'à Sainte-Afrique, à Savignac.
D'accord, ça fait un grand périmètre à couvrir quand même.
Ouais, c'est la plus petite exploitation horticole peut-être du coin, mais la plus étendue.
Bah ouais, il fallait bien décrocher le pompon à quelque chose.
C'est compliqué de trouver du foncier, donc j'ai pris là où on pouvait m'en prêter, et puis j'ai acheté à l'Estrade, donc je suis principalement basé là-bas, mais voilà, les autres terres, c'est pour essayer de m'agrandir un peu, mais étant limité, quoi.
Depuis quand tu fais ça ?
Alors, j'ai créé la pépinière en 2012, je me suis formé en 2009, en fait, en BPREA, option pépinière, à moitié à Carpentras, à moitié à Sainte-Afrique. Et après, j'ai débuté la greffe en 2011 et je me suis amélioré petit à petit. Donc là, je greffe à peu près 2000 plants par an.
Et donc, pépiniériste, tu es censé faire pousser des belles plantes, des beaux arbres, des beaux arbustes que tu revends par la suite.
Voilà, alors pépiniériste, c'est très vaste. Moi, je suis spécialisé sur les arbres fruitiers.
D'accord.
Et les petits fruits un petit peu, je commence un petit peu à produire des petits fruits. Donc vraiment, tout ce qui est des plantes à destination alimentaire et principalement fruitière.
Et pourquoi as-tu choisi ce genre d'agriculture ?
Je trouvais intéressant de valoriser le patrimoine fruitier local. Donc moi, je collecte des variétés anciennes qui sont présentes dans tout le périmètre du parc des Grands Causses, voire aux alentours, jusqu'au dans le Tarn-et-Garonne pour le plus loin, et de faire un peu refleurir en fait cette culture qui était très présente auparavant dans la région, notamment encore à Millau, on le sait bien. Et donc de valoriser ce patrimoine, de faire fleurir un peu le printemps aussi. En fait, c'est joli les fleurs de fruitier au printemps, quoi.
Ah, ouais.
J'aime la beauté aussi, et puis des saveurs qui sont souvent originales, et puis des fruits de qualité, quoi.
Et tu trouves facilement des clients ? Tu vis correctement dans ton exploitation ?
Comme je suis petit, que je débute encore, que je n'ai pas toutes les compétences, voilà, même si comme 2000 arbres, c'est pas mal pour un pépiniériste, je suis encore faible au niveau de mes revenus, mais ça se développe bien. Et là, l'hiver dernier, j'ai commencé à faire des foires dans toute l'Occitanie, en passant par Metz, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Aude, le Gard, au-delà de l'Aveyron. Sinon, c'est les marchés locaux de Millau et Sainte-Afrique, puisque ma vocation, c'est de valoriser les patrimoines locaux pour les habitants.
D'accord.
Avec les habitants qui m'aident à retrouver des variétés.
Tu fais vachement de bornes. Tu aimes bien parcourir les kilomètres.
C'est pour ça que j'appelais la pépinière l'Arpenteur. C'est que le sud d'Aveyron, c'est vaste et peu peuplé. Donc, je cours et je bats la campagne d'un peu partout, aussi bien vers Brusque, Saint-Jean-du-Bruel, jusqu'à Ségur, dans le nord de l'Aveyron. Aussi bien qu'aussi vers Albi, en descendant vers Trébasse et tout ça, quoi.
D'accord. Voilà. Et en fait, de faire toutes ces bornes pour aller voir des clients et tout, c'est comme ça que tu trouves tes clients ?
Alors, pas seulement, le bouche à oreille marche très bien. Il y a aussi le fait que, en discutant avec un client à Lacône, en fait, je peux retrouver un très vieux grenadier qui est présent au Cambon, commune de Sainte-Afrique, parce que sa voisine en a parlé, et ainsi de suite. Et donc, je prospecte, j'enquête. Ça, c'est mon petit côté universitaire que j'ai eu à une époque et qui reste un peu quelque part chercheur.
D'accord.
Chercheur de vieilles variétés.
Tu as fait des études en quoi ?
En géographie, donc voilà. Donc,
géographie, c'est vaste.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai étudié le sud d'Aveyron en maîtrise, donc ça me permet aussi de bien connaître le terroir,
ouais.
De connaître les variations de géologie, de sol, de climat, qui sont extrêmement importantes chez nous,
ouais.
Et donc de bien conseiller les clients par rapport aux besoins que pourra avoir l'arbre chez eux. Donc des fois même, je peux refuser en fait la plantation d'un arbre ou la vente d'un arbre, parce que j'estime que dans un terrain en fait hyper caillouteux, sans eau et sans arrosage et sans terre, on ne plante pas de pommiers, par
ouais.
exemple.
Les plants que tu vends, ils sont fertiles ?
Fertiles, alors c'est un grand mot.
Si on garde un fruit et qu'on le remet à planter, il repart ou pas ?
Alors la fertilité du fruit, elle est liée aussi à la pollinisation. Donc en fait, on conseille souvent de planter un arbre avec un arbre de la même espèce, un prunier avec côté d'un autre prunier, pour favoriser la fructification. Et aussi, quelque part, après, on peut ressemer, mais c'est jamais fidèle. Parce que, comme je dis toujours, en fait, les graines qu'on sème sont nées de pères inconnus, pour la plupart. Donc l'enfant, on ne sait pas, la petite graine, qu'est-ce qu'elle va faire comme fruit. Surtout pour le pommier et le poirier. C'est très rare que ça fasse le bon, parce qu'il y a beaucoup de pommiers et de poiriers sauvages, ouais. Et ça s'hybride, et donc ça ne fait pas bon. Par contre, certaines pêches se ressèment fidèlement. Une pêche aux pies, là, extraordinaire, ouais. Rouge avec le cœur légèrement jaune, uh-huh. Elle se ressème fidèlement, elle est d'accord. Excellente.
En plus.
Oui, mais elle est répandue un peu partout dans le sud d'Aveyron.
D'accord. Mais tu es en train de me régaler, là, j'ai l'eau qui me monte aux babines. On va se calmer un peu. Hein. Et alors, tu me disais que bon, pour l'instant, tu vis difficilement, enfin, petitement de ton exploitation.
Voilà, donc je travaille un petit peu à côté de temps en temps, même à l'automne encore, je vais embaucher dans un autre travail pour compléter, mais ça ne m'empêche pas de développer l'activité quand même, quitte pourquoi pas, même avec mes petits revenus, j'ai de grandes chances de pouvoir salarier quelqu'un partiellement à l'automne pour commercialiser mes arbres ou m'accompagner dans le travail.
Bon, c'est un beau métier dont tu es content. Est-ce que tu conseillerais ce métier-là, toi ?
Ben ouais, j'ai plein de stagiaires en fait qui j'invite en fait à développer cette activité parce que des pépiniéristes, il n'y en a plus beaucoup, sinon c'est des très grosses structures qui vont valoriser des variétés très commerciales. Ouais. Ben, si on veut avoir le plaisir de goûter des saveurs un peu originales, en fait, il faut des pépiniéristes partout. Ouais. Des pépiniéristes ou fruitiers, il y en a pas loin hein, de chez moi, il y en a d'autres qui vont être en conventionnel, d'autres en bio. Mmh. En bio, on est une équipe là un peu dans le sud de la France à se regrouper un peu, à échanger parce que ben, c'est un peu nouveau la pépinière bio. Et donc, chaque année, il y en a un nouveau qui s'installe entre l'Occitanie, l'Aquitaine et la Provence. Chaque année, on en a un nouveau qui s'installe. Mmh, mmh. Donc, c'est vraiment une filière en développement. Les gens en sont en demande. Les gens, ont envie de goûter ces saveurs-là, ouais. D'avoir des variétés plus rustiques aussi, mmh. Même si elles sont un peu moins productives. Mmh. Et donc, il y a une demande forte. Et donc, on essaie d'y répondre. Mais ça ne suffit pas d'avoir tous les gens que nous sommes déjà. Donc, d'installer de nouvelles personnes. C'est toujours intéressant. D'accord. Et en plus, d'implanter un pépiniériste à un endroit donné, il va bien connaître son terroir, comme je disais pour moi tout à l'heure. Et donc, tout à l'heure, j'avais un client qui m'appelait de Dordogne. Je lui ai conseillé d'aller voir le collègue que je connais en Dordogne, quoi, parce d'accord. Que lui, il connaît son territoire. Ah. Si jamais il n'a pas la variété, je peux la transmettre au collègue. Ah. Et voilà, on travaille en synergie, on travaille pour valoriser ce patrimoine-là, qui est un peu en voie de disparition. Les lois sont toujours possibles, en fait, pour pouvoir commercialiser ça. Hein. Ce n'est pas aussi difficile que pour les semences de légumes. Mais on y veille avec le réseau Semences Paysannes notamment, ouais. Où je participe un petit peu, et pour que ce soit toujours possible, tout en préservant la santé des plantes, c'est-à-dire qu'on a des contrôles aussi qui sont faits par la région, ouais. Pour surveiller les maladies graves de quarantaine qu'on appelle, uh-huh. Et donc on est contrôlé chaque année pour pouvoir surveiller qu'on ne répande pas de maladies évidemment, d'accord. Parce que c'est un peu comme le coronavirus quelque part.
Bah, parlons des réseaux un peu, je sais aussi que tu fais partie des paysans des Raspes.
Oui, petit assaut. Après, bon, c'est une association qui essaie de valoriser les produits locaux en les commercialisant. Moi, c'est vrai que la pépinière, c'est pas avec 2-3 communes comme un maraîcher que je pourrais arriver à tourner. Donc, il me faut aller sur un réseau plus vaste. Ouais. Donc, je les soutiens. Je trouve ça super chouette comme initiative. J'essaie de m'y investir un peu, mais c'est vrai que c'est délicat dans le sens où c'est à une petite échelle. Et moi, j'ai besoin d'une grande échelle, comme on a dit, un grand rayon de chalandise pour pouvoir commercialiser mes arbres. Donc, le sud d'Aveyron suffit à peu près, et de temps en temps, quelques foires à l'extérieur. D'accord. Après, je participe aussi donc, au réseau Semences Paysannes, à Nature et Progrès. Je suis proche adhérent à l'APABA, je suis syndiqué à la CONF. Ah. Et donc, tout cet ensemble-là va m'aider, me soutenir, et que je soutiens aussi l'initiative qu'il peut y avoir. S'il y a un jeune qui cherche du foncier, ben, peut-être que je peux avoir une idée pour le soutenir, ou même simplement par mon travail en fait et être de bon conseil. Moi je conseille bénévolement et gratuitement en fait mes clients et pourquoi pas des porteurs de projets quoi. Ouais. Des maraîchers peuvent se regrouper au sein de la PABA par exemple où il y a quand même pas mal de compétences. Au niveau de la pépinière c'est interrégional quoi parce qu'on n'est pas très nombreux, on est 2-3 par département maxi. Ouais. Donc moi je suis tout seul en Aveyron en bio, il y en a deux autres qui font de la production aussi, les pépinières Mercadier et les pépinières de Jean-Marc Perrier, qui sont des vieux de la vieille on va dire quoi, donc respect. Mais après sinon c'est tout, il y en a un dans le Lot, il y en a deux dans le Tarn en bio, il y en a un dans l'Hérault, il y en a trois dans le Gard, un en Lozère, il y en a 4 ou 5 je crois dans l'Aude, c'est assez exceptionnel. C'est parce qu'il y a un très ancien pépiniériste bio qui est présent depuis 40 ans et donc ça a fait un essaimage on va dire. D'accord. Et voilà quoi, après...
Donc toi tu reçois un plan qu'un collègue t'envoie, tu le greffes pour le reproduire ?
On se retrouve sur les marchés, en général on va s'échanger un arbre qu'on a greffé de l'année, ouais. Et tiens t'as cette variété, tiens moi j'ai celle-là, tiens ça te dit qu'on fasse l'échange et on échange. Ouais. Et donc comme ça on va pouvoir maintenir ce patrimoine fruitier, mmh. Parce que ben, si chaque pépiniériste là, on est des pros, nous on a envie d'avoir notre collection. Quasiment tous les pépiniéristes ont un verger conservatoire, entre guillemets, sur lequel ils récoltent les greffons, ouais. Pour garder la variété, la multiplier. Ouais. Moi là, j'ai un cours d'achat d'un fond de terrain pour faire un verger, pour pouvoir avoir ce verger de pied mère, comme on dit, pour récolter les greffons. Et en plus, ça me permettra d'observer les arbres, leur croissance, les maladies potentielles qu'il y a. Et donc de bien être au top au niveau du conseil. Après, j'observe les arbres chez les particuliers qui me laissent le loisir de récupérer les greffons. Donc voilà, j'ai diagnostiqué des variétés, c'est analysé, c'est vérifié. Ouais. Et celle où j'ai des doutes, ben, j'ai des doutes, je le dis. Ouais. Et donc la variété, ben, elle n'est pas fixée, comme on dit, elle n'est pas précisée sérieusement. Ouais. Et donc ça, c'est de côté. D'accord. C'est pas ça que je commercialise, sauf si la personne la connaît déjà. Là, je peux lui transmettre. Mais sinon, voilà, je ne connais pas la variété. D'accord. Et les variétés brevetées, j'en fais pas.
D'accord.
Parce que ben, y a des brevets et que moi, je ne compte pas servir un système. Voilà. Ouais. Donc, quand elles deviennent libres de droit, la Chantecler notamment est devenue libre de droit il y a quelques temps, ben, je peux la commercialiser, mais je surveille ça.
D'accord.
C'est compliqué un peu.
Hein. Oui, je vois, ouais, c'est très technique. Alors, question technique, ça vit combien de temps un arbre fruitier, à peu près?
Il y a un poirier à Broquies, on rentre dans le tronc debout. Donc, l'arbre, il va faire plus d'1,20 m de diamètre. Il y en a un autre à Thiergue aussi, qui est très bon, un Pérouse. Ah. Et donc, un poirier, ça peut vivre 300 ans sans problème.
Ah, 300 ans. Et donner des fruits pendant 300 ans.
Oui. Uh-huh. Les fruits d'un vieil arbre sont souvent un peu moins nombreux, mais un peu plus savoureux. Ouais.
Je vais faire appel à tes dons de prophète.
J'ai un prénom de prophète.
Eh oui, Samuel.
Voilà, Samuel le prophète. Alors.
Donc, je pense que tu peux avoir une belle réponse à ma question. À ton avis, toi qui fais de l'agriculture depuis un peu moins de 10 ans, donc ça fait un petit recul, comment tu vois, toi, l'agriculture évoluer d'ici 10 ans, d'ici 20 ans? Est-ce que, alors souvent, ce que je m'entends dire, c'est ça va être une bataille très grosse exploitation de plus en plus grosse contre petits, de plus en plus petits et moins d'intermédiaires. Est-ce que toi, tu vois un autre modèle que ça ou est-ce que effectivement tu adhères à cette pensée-là?
Moi, je ne suis pas dans l'opposition entre les gros et les petits. Pour moi, en fait, il y a la place pour tout le monde. Mmh. Il suffit de s'entendre, d'être dans le dialogue, d'être dans l'écoute des besoins de chacun. Moi, je n'ai pas besoin d'une grande surface pour pouvoir vivre. Ouais. Avec 3 hectares, je suis le roi du pétrole, quoi. Vraiment, je n'ai pas ça. Hein. Mais l'année prochaine, peut-être il y a des chances que je l'ai. Et donc, ça pourrait me suffire hein, pour m'installer et pour pouvoir vivre de mon travail. Ouais. Après, il y a sur du Larzac, en fait, avec des brebis, avec 400 brebis, avec 3 hectares, on a du mal, quoi. Voilà, 300 de pâture, bon, on a de quoi manger. Une estive avec 600 brebis, avec sur le Côte-Noir, là, ben, 600 brebis, il faut quand même 200 hectares parce que c'est maigre, quoi. Ouais. Ça dépend de l'endroit. L'horticulture, hein, dont je fais partie, elle a besoin de beaucoup d'eau. Sur un hectare de maïs en silage irrigué, ou de maïs grain, on pourrait installer un maraîcher. C'est là où ça devient... Là, c'est une réflexion intéressante pour moi. C'est que la plus-value qui se fait, ce que ça génère comme argent pour pouvoir nourrir les bêtes, le maïs en silage, ça va faire quoi? 2000 euros, 3000 euros, on va dire, sur un hectare, de plus ce que ça vaut, la récolte. Ouais. Si on met un hectare de pommier, et en bio, au bas mot, on a 15-20 tonnes, à 2,50 € le kilo... On est à un autre niveau. Ouais. Donc si on veut de la rentabilité, et que je pense que le monde de paysans n'est pas con, il y a de l'intelligence partout, quoi, et ben, il y aura des changements qui vont se faire. Alors ça n'empêchera pas que peut-être sur le GAEC qui regroupe 5 personnes, on salarie quelqu'un qui va s'occuper d'un petit verger. Et ça, je trouve que ça peut être intéressant aussi. C'est travailler ensemble, c'est que le fumier des brebis hors sol, il y en a beaucoup dans le coin, ouais, ou de chèvres, et ben, il va être amené au verger. Les reliquats de pommes, on va pouvoir très bien faire quelque chose avec. Mmh. C'est nourrir les chèvres avec. Mmh. C'est riche. Ouais. Donc, il peut y avoir des synergies qui peuvent se trouver, notamment l'arbre fruitier, les prés vergers, c'était pas anodin. Il y en avait beaucoup. On en a dans le Nord-Aveyron, un peu dans le Sud, et en Normandie, il y en a pléthore. Ouais. Donc, il y a des stratégies à avoir. C'est que plutôt que d'irriguer du maïs, on peut à la fois avoir une production agricole et alimentaire pour l'humain et avoir un complément qui sert aussi aux bêtes. Ouais. Et donc, il y a des synergies qui peuvent se trouver. Sous un verger de plein vent, on peut faire paître des brebis l'été. L'herbe reste verte parce qu'il y a les arbres qui vont pomper l'eau en profondeur et qui vont ramener de l'humidité dans l'air. Donc, l'herbe ne sèche pas. Donc, il y a de l'herbe fraîche. Donc, il y a des choses intéressantes à faire. Les châtaigneraies, c'est pareil. C'est un verger, une châtaigneraie. Donc, c'est un fruit. Il faut l'irriguer. Sinon, on n'a pas de châtaigne. On le sait. Si le mois d'août, il est sec, on n'a pas de châtaigne à l'automne. Donc, c'est trouver ces dialogues-là avec intelligence. Et moi, je suis sûr qu'on arrivera à trouver des réponses pertinente. Il y aura toujours des cons, il y aura toujours des gros, il y aura toujours des petits, il y aura toujours des riches et des pauvres. Ça, j'y peux rien, moi. Et donc, je crois que c'est une réalité qui a toujours existé sur Terre. Je suis triste qu'il y ait des riches qui s'en foutent des autres, parce que des avares, il y en a toujours eu. Et il y a des pauvres avares et des riches avares. Donc, voilà, moi, je reste un peu... j'ai un peu foi en l'humain, et je me dis qu'il y a moyen qu'on ait trouvé des solutions belles et pertinentes pour que ça marche. Que les pesticides, en fait, ben, ici, moi, je suis gâté, j'ai plein d'oiseaux partout, bien que pourtant, j'ai de la production intensive à proximité. Donc, ça veut dire quand même que... Qu'est-ce qui se passe là ? Ça pourrait se réfléchir. Ben, y a des choses intéressantes, quoi, à mon avis, à réfléchir. Il y a des solutions qui sont là, il suffit de bien regarder, observer. Et c'est vrai que les agriculteurs bio et d'autres conventionnels aussi sont de très très bons observateurs de nature. Et même par rapport à des écolos intégristes là, de la ville et tout ça, qui ont des grands discours, qui ont un petit cul, là, qu'on voit qu'ils n'ont pas beaucoup couru la campagne, et ben, il y a des paysans qui sont beaucoup plus pertinents. Et que pour moi, maintenant, même si j'avais une tendance à être très sensible à l'écologie, l'écologie, c'est très proche de l'économie aussi au niveau de l'origine du mot. C'est la science de la maison, et ben, de comprendre l'espace dans lequel on vit, la Terre. Ben, celui qui la pratique tous les jours, peut-être qu'il a un mot à dire aussi. Quoi. Après, il y a des couillons. Hein. Faut pas écouter tout le monde aussi. Il faut avoir un sens critique. C'est ça qui manque peut-être le plus. J'aimerais qu'on éduque aux sciences critiques. Je sais pas. L'avenir, moi, je me dis toujours, l'avenir, il n'existe pas encore. Donc, en fait, je ne peux pas dire quoi. Je ne suis pas devin.
L'avenir est
mais j'ai espoir en ce que le dialogue permette que des choses belles se fassent.
C'est beau. J'aime bien.
Je crois en l'humain, quoi.
Non, mais tu as raison. Enfin, y a des optimistes et des pessimistes.
Voilà. Moi, je suis optimiste. Sauf quand je suis fatigué.
Al fond de la Prado, y a un pibour trauca, loco que ti canto, tres y canizas. Se canto que cante, canto paz per bien, canto per malío, que es alegre. Tan alto sur, me pachón de aire, más amor sun sur. Se canto que cante, canto paz per yeu, canto per malío, que es além de yeu. Paisas mus montaños, planos que vos quereire, más amor, sun, sun. Se canto que cante, canto paz per yeu, canto per mamillo, que es el rey de yeu.
Il y a vachement de fougères aussi ici, je suis étonné.
Ah, c'est pas fini. Là, on est encore dans les rougiers. Quand on est au Pi, on est dans les rougiers, on recaisse.
Ah.
Et on va quitter les rougiers pour arriver à la limite du Ségala et du Lévezou. La lumière, elle est pile poil à la limite des trois. C'est un endroit complètement perdu.
Donc là, on est dans ton kangou que tu as récupéré de la poste.
Et ouais, c'est un ami maraîcher là, à Saint-Afrique. En fait, il voulait s'en séparer pour en avoir un mieux.
Ah.
Donc il me l'a vendu. Et maintenant, c'est moi qui m'en sers.
Il roule bien.
Ça va, c'est un peu une rougne hein, quand même. Hein, il a 20 ans, et la pompe à injection, elle demande s'il vous plaît.
Là, ça sent le silage. Là, une grosse affaire.
Ouais, là, c'est une grosse belle affaire. Donc voilà la clôture.
Ouais, dis donc, on passe pas là.
Voilà, on va s'arrêter là.
Même les chevreuils, ils ont beau sauter haut. Ils ouais, passeront pas.
C'est mort.
C'est mort. On va aller se rhabiller les chevreuils.
Donc voilà, là on arrive.
Quand tu sors
sur le verger,
c'est oh, là putain, tu mets pas attention chevreuil, mais de ce côté. Quand tu sors, attention chevreuil. Donc je me suis énervé un peu, tu vois, cet hiver là.
Wow, grosse souche.
Vu que mon nom de famille c'est souche.
D'arbre.
Eh oui, c'est vrai.
Je vais faire une hutte en souche.
Ah ouais, ben bien vu. Et ça a déjà la forme ronde et tout, quoi.
Oui, donc voilà, ça, ici, ouais. C'était une forêt, quoi, comme derrière toi. Des arbres, des petits chênes de 15 mètres de haut. Donc moi, j'ai commencé à en arracher une centaine à la main, à la pioche et au palan.
Boudu.
Et ma mère m'a dit, mais mon pauvre...
tu vas t'user, comment ça?
Tu vas t'user, tu n'auras pas commencé ta pépinière. Tu seras même complètement détruit, tu n'auras pas commencé ta pépinière. Bon, ouais. Elle m'a aidé. Et donc, on a fait venir une mini-pelle pour aller un peu plus vite, d'où les souches derrière.
Ah
nous.
Bon, je croyais que tu avais aidé à arracher les...
Non.
Elle est courageuse, ta maman.
Généreuse.
Un châtaignier. Ah ben oui, tiens, j'ai pas reconnu.
Kiwi à côté.
Le kiwi.
Qui a très très soif, là. Faut vraiment que je l'arrose demain.
Encore, noisetier. Ça, c'est bon, hein.
Alors là, je vais planter mes...
Oh, un truc de l'armée.
Ma collection de noisetiers pour pouvoir avoir des pieds de noisetiers pour pouvoir les multiplier.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est les préparations de terrain en fait où on va planter des porte-greffes pour pouvoir les greffer l'année prochaine. Là c'est...
Ah
là,
mais
là,
c'est
là,
grand
là,
on en parle
pas là, c'est hop, c'est les pruniers qui ont tout raté. Après il y a les petits pommiers qui sont pas mal du tout.
Ah.
Voilà, tu vois, tout ça c'est les pommiers de cette année. Il y a une centaine de variétés cette année de cultiver. Et donc voilà...
Des et en fait c'est tout petit, c'est des bouts de bâton, enfin c'est les bâtons.
Avec des racines.
Avec des racines, t'as mis un produit dessus pour solliciter la...
Du tout. Moi, là, c'est du mastic juste pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui reste ou qui se dessèche.
D'accord.
Donc, c'est de la résine, c'est de la cire, quoi.
Uh-huh.
C'est de la cire mélangée avec de la résine de pin, on va dire. Hein.
D'accord.
Donc, c'est utilisable en bio. J'ai mis un engrais vert, en fait, du trèfle blanc d'un côté et du lupin de l'autre.
D'accord.
Pour favoriser l'azote dans le sol. Ouais. Ma terre est très riche en carbone, mais pauvre en azote.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que je fais ça.
Ok.
Après, voilà, il y a des variétés qui vont être plus ou moins vigoureuses et tout. Moi, mon principal souci, c'est le chevreuil. C'est le premier prédateur de ma pépinière.
D'accord.
Fais gaffe à l'eau.
Ouais, je me fais arroser par le sprinkler.
Donc là, nous, ce qu'on fait en pépinière, avec ma stagiaire notamment, c'est qu'on va, ébourgeonner, enlever les pointes, hop, pour que la tige reste bien belle et bien droite.
D'accord.
Et si je veux ramifier à un endroit donné, par exemple celui-ci qui est très beau, je vais juste couper les feuilles. Comme le chevreuil. Le chevreuil nous l'apprend, ça. La feuille, je laisse la tige de la feuille, le pétiole. Et là, il va faire des branches juste en dessous.
D'accord.
Ça, c'est une stratégie qu'on a discutée avec les collègues pépiniéristes et que des très gros professionnels ont partagé leur savoir avec nous. Ils nous ont expliqué ça.
D'accord.
Ce qui va faire que je vais, sans aucune taille, juste en coupant un bout de feuille, je vais permettre à ce que des branches se créent. Donc, c'est des méthodes très douces. Les moines zen disent bien, avec un ongle, je pourrais tailler un arbre. Juste en triant les bourgeons, et en choisissant les bourgeons qu'on veut garder ou pas. Là, même avec la feuille, sans même le bourgeon. C'est des finesses. C'est l'agriculture même industrielle qui le pratique, mais c'est des finesses qui sont dans l'agriculture et que peu de gens connaissent. Ouais. C'est de la bonne technicité, quoi.
Ouais.
Et on a besoin de ça pour avoir de beaux arbres.
J'ai une question. Quand tu veux le vendre, ton truc, là, donc tu creuses autour, là, avec...
Avec un loucher, une sorte de bêche, très, très longue et profonde. Je vais découper la terre comme une part de gâteau. La terre est très souple.
Ouais.
Tu creuses sans problème en plein été, quoi.
Ouais.
Et elle est
avec deux doigts, t'as creusé 10 cm, quoi.
Voilà. Et donc, ce que je fais, c'est que je découpe la terre, claque, comme des parts de gâteau, tout autour.
Ouais.
Et ensuite,
tu le fous dans un pot.
Je vais de biais, je coupe la racine pivotante qui est au milieu. Et je soulève la motte, je récupère la plante avec ses racines. J'effeuille, s'il y a encore quelques feuilles qui traînent dessus l'arbre. Et ensuite, je vais le plonger dans du pralin pour protéger les racines le plus vite possible.
D'accord.
Et ensuite, je mets en jauge dans du sable. J'arrose si nécessaire pour que l'arbre soit au top du top, bien protégé au niveau racinaire pour pas qu'il souffre. C'est la manière de faire.
Et combien il fait ton terrain à peu près, tu sais?
Le cultiver, j'ai 4000 m2.
4000, en gros.
Alors pour l'irrigation, c'est un tuyau qui remonte à la cascade, qui permet d'irriguer.
Ouais.
Et donc en fait, ça me permet d'avoir l'eau mais sans pompe.
Uh-huh.
Donc en fait, je ne consomme pas de gasoil non plus.
Ouais.
Donc ça correspond un peu à mes valeurs. Et par contre, ça ne fait pas beaucoup de pression. Donc je peux faire tourner juste un asperceur à la fois. Donc toutes les demi-journées, je change de place. C'est pour ça que je ne peux pas partir en vacances l'été.
Ouais, voilà.
À terme, peut-être, changerai de système, j'améliorerai. Mais je mettrai du goutte à goutte probablement, parce que c'est des lignes, c'est facile. Et donc voilà.
Tout ça, c'est les pruniers là qu'on voit?
Les 5 rangs, ouais.
6 D'accord.
Rangs. Après, il y a des amélanchis du Canada.
Il y en a, ils dépassent les 1m50 quand même.
Ouais, les plus beaux, ouais.
Ouais.
Après, les amélanchis du Canada qui sont très jolis, les néfliers d'Allemagne.
Néfliers, ah ouais.
Les cornouillers mâles. Et l'avantage d'avoir tout au même endroit permet de bien savoir, de bien distinguer une variété d'une autre. C'est l'objet d'un verger conservatoire de professionnel, c'est-à-dire de bien regarder qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce qu'on va me dire, t'as cette telle pomme, on va parler de la traîne Saucèbre, qui est une super pomme en fait, dans le coin là, entre Saint-Isère, Broquies et tout. Et en fin de compte, au bout de 4-5 ans, j'ai regardé par rapport à une autre pomme que je connaissais, qui est très répandue en France parce qu'elle est super bien, elle fleurit très tard, et donc elle a toujours des pommes, elle ne souffre pas des gelées. Et en fait, c'est la Rainette du Mans. C'est la même. Sauf que localement, ben, on s'en fout de savoir qu'elle s'appelle Rainette du Mans. Par contre, traîne Saucèbre, on connaît bien, ça veut dire tresseau d'oignon. Donc les pommes, elles sont resserrées une année, il y en a beaucoup, et ben ça fait une grappe comme une grappe d'oignon. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Mais à l'origine, elle vient du Mans.
Et ça, c'est la rune dont tu me parlais là tout à l'heure ?
Voilà.
Okay.
Ici, c'est ce terrain, la pépinière, on peut voir. C'était une friche industrielle. C'est une friche industrielle.
Ah bon ? Il faisait quoi ici ? Alors là.
On rentre dans les barcasses, les résidus de minerais.
Quoi, du charbon ?
Plus que ça.
Qu'est-ce qu'on a ? Ah mais si, si.
Ça, voilà. C'est des résidus d'une fonderie.
Ah !
Et toute cette butte-là,
du métal.
Derrière la grange, là, toute cette butte qui est à moitié chez moi, moitié chez le voisin, il y a le muret qui sépare.
Ah.
Toute cette butte, c'était donc là où ils rejetaient le mâche-fer, cette matière-là. Issu probablement de bas fourneaux. C'est-à-dire qu'ici, on brûlait le minerai de fer pour le transformer et en extraire le métal. En le chauffant très fort, le métal liquide s'agglomère, coule et est récupéré en forme de masse. Et ce qu'il y a autour, le reste,
tous les déchets.
C'est le mâche-fer, c'est ça.
D'accord.
Et ça, il y en a énormément à la pépinière, un peu partout.
Ah ouais ?
Et dans ce tas-là, particulièrement. Donc, beaucoup de gens dans le coin disent il y avait la laverie à côté, là où il y a la centrale hydroélectrique du voisin.
Ouais.
Ici, c'était la fonderie. Et peut-être, c'est une supposition, la mouline, peut-être, c'était une mouline à fer.
D'accord.
Où on battait le fer pour faire plein d'objets en métaux.
Bon, mais merci pour la visite.
Avec plaisir.
Je vais faire le stop.
Encore merci à Samuel pour ses explications et descriptions exhaustives. Parole rurale est diffusée le mardi à 8h15, le jeudi à 18h et le dimanche à 14h. Vous pouvez également retrouver ce programme sur le site de radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.